Ouais, bonjour à tous. Merci de revenir après les quatre premiers conciles que nous avons pu étudier l'année dernière, enfin en début d'année, à la fin d'année scolaire, on va dire, l'année dernière. Nous avions vu donc le premier concile, Nicée, Constantinople I, Éphèse et Chalcédoine, qui sont vraiment les conciles les plus importants, où vraiment on a établi les bases de l'orthodoxie. Et là, nous allons aborder le concile de Constantinople II, le deuxième, puisqu'il y en aura quatre au total dans les conciles œcuméniques à Constantinople. Ce deuxième concile de Constantinople, en fait, est vraiment dans la suite du concile de Chalcédoine. Il en est vraiment la perpétuation, la continuation par rapport au débat qui n'était pas vraiment clos au terme du concile. On a vu que sur cette question de l'union des natures du Christ, on a vu des débats très virulents, que ce soit à Éphèse ou à Chalcédoine. Avec le fameux épisode du brigandage d'Éphèse également. Enfin, donc on voit que c'était un débat très, très virulent, très animé, avec des enjeux qui peuvent nous sembler aujourd'hui lointains, mais qui étaient vraiment considérés comme essentiels. Donc le concile de Constantinople II s'est déroulé du 5 mai au 2 juin 553. Je voudrais déjà faire une petite incise sur cette année 553. Nous, il nous semble qu'on est très loin, on est dans les premiers temps de l'Église, qu'on est finalement assez près de l'incarnation, mais on est 500 ans après l'incarnation. C'est-à-dire qu'on est aussi loin de l'incarnation que nous de la bataille de Marignan, quasiment. Donc il y a quand même une période de temps déjà très importante où le christianisme a pu mûrir, se poser des questions théologiques, s'affronter avec la philosophie païenne, etc., etc. Donc il faut bien prendre ça en compte, on est plus vraiment à l'époque du Christ, on est déjà longtemps après. Alors ce concile, c'est la conséquence directe des réactions qui ont eu lieu après le concile de Chalcédoine, qui avait, on l'a vu, provoqué de nombreuses tensions. Ces tensions, en fait, tournent autour de deux approches divergentes des écoles antiochienne et alexandrine sur les relations de la nature humaine et de la nature divine dans le Christ. Donc question, quoi, on l'a vu, qui était au cœur du concile précédent. Du côté d'Antioche, on cherche à déterminer les actes qui relèvent de la nature divine ou de la nature humaine dans la personne de Jésus-Christ, au risque, bien sûr, en distinguant trop abruptement, de finalement séparer le Christ. On se souvient de l'exclamation des évêques qui étaient partisans de Tichèce lors du fameux brigandage d'Éphèse. Ils s'étaient écriés à mort que l'on coupe en deux ceux qui divisent le Christ. C'est dire que c'était pour eux important. À l'inverse, donc plutôt dans cette perspective, Théodoré de Cyr, qui était un des grands docteurs de l'école d'Antioche, demande que l'on considère, je cite, ce qui convient à la divinité et ce qui convient à un corps, sans diviser en fait l'unique Fils en deux. Et dans l'unique Fils de Dieu, personne ne séparera une opération quelconque de la vraie divinité, mais la raison fera reconnaître de quelle nature relève ce dont il est question. Donc on voit bien qu'il cherche à déterminer ce qui peut relever de la nature divine et ce qui peut relever de la nature humaine. L'école d'Alexandrie, à l'inverse, qui s'appuie, on l'a vu, sur les écrits et l'autorité de Saint Cyrille, met plutôt l'accent sur l'union des deux natures dans la personne du Christ. La conséquence de cette approche est alors de définir la démarche spirituelle comme un cheminement vers la déification, suivant ainsi à la lettre l'expression de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, je cite, ce que d'avance il a discerné, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Bon, donc, pendant toutes ces années, ces conceptions se frottent, s'opposent, pendant les années qui séparent Chalcédoine et Constantinople II, l'opposition ne va pas s'apaiser. En fonction des influences à la cour impériale, patriarches et évêques chalcédoniens succèdent à des prélats de tendance monophysite, donc plus proches des Alexandrins, plus ou moins marqués et réciproquement. Par ailleurs, le poids politique et économique de l'Égypte poussait les empereurs à tenter de trouver une forme de conciliation, qui s'avéra dans le long terme impossible. On peut dire que l'Égypte, donc qui était vraiment sur une position qui va aboutir finalement à l'église monophysite copte que l'on connaît aujourd'hui, hein. L'Égypte entra à cette période-là en quasi-révolte. Le nouveau patriarche d'Alexandrie, Protérius, un Égyptien pourtant, mais choisi par la cour impériale, ne put prendre possession de son chef qu'avec l'aide de l'armée, avec des troubles considérables, où une compagnie de soldats périt brûlée dans le Sérapéon. Ce patriarche trop chalcédonien au jeu de la population fut d'ailleurs assassiné en 457. Pour comprendre une telle agitation, il faut avoir à l'esprit que pour les populations coptes de langage et de mentalité, le pouvoir impérial grec était vu comme un exploiteur étranger. Leur unique recours contre les mesures fiscales de l'Empire était le patriarche d'Alexandrie, dont le rôle politique était dès lors considérable, et qui, de ce fait, ne pouvait pas être trop proche de Constantinople aux yeux de la population. Ainsi, en Orient, le poids des monophysites croissait sans cesse, pour des raisons diverses, on l'a vu, mais en raison aussi du soutien permanent de l'impératrice Théodora, qui avait sans doute entrevu les conséquences politiques d'une application stricte de Chalcédoine. On l'a dit, Chalcédoine, avec ses deux natures, sans séparation, sans confusion, aboutit à une certaine forme de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse. Or, bien évidemment, dans l'Empire d'Orient, il y avait une tendance à tout remettre entre les mains de l'empereur, et on va voir que c'était un des aspects de ce concile de Constantinople. Ainsi, quand Euphémius, patriarche de Constantinople, mourut le 5 juin 535, Théodora pourvut à l'élection du nouveau patriarche, Antimos de Trébizonde, récemment acquis à la cause monophysite. Mais lorsque le pape Agapé arriva à Constantinople pour des raisons diplomatiques en février 536, il mit en question l'élection d'Antimos. Celui-ci s'enfuit et le pape eut la satisfaction de consacrer de ses mains, le 13 mars 536, comme nouveau patriarche, le prêtre Ménas. La situation s'envenima pendant tout le règne de Justinien. Toujours dans le souci de trouver un compromis entre monophysite et chalcédonien, l'empereur fit publier un édit, dit des trois chapitres, qui condamnait les écrits de Théodore de Mopsuest, de Théodoré de Cyre et d'Ibas d'Édesse, tous trois accusés de tendance nestorienne. Il pensait par là contenter les deux parties qui, au moins, se rencontreraient sur la condamnation de Nestorius. Malheureusement, ces trois auteurs, à des degrés divers, mais avaient été pardonnés au cours du concile de Chalcédoine. Donc les orthodoxes y virent une attaque contre le concile lui-même et l'agitation prit encore de l'ampleur. Celle-ci fut encore accrue par l'apparition d'une hérésie nouvelle, l'aphtartodocétisme, une doctrine qui enseignait l'incorruptibilité du corps du Christ avant sa résurrection. Elle consiste à dire que le corps du Christ étant inséparable de sa divinité, il n'a pu lui-même, de par sa propre nature, s'altérer dans la mort ni même souffrir, Dieu n'étant pas sujet à la corruption de la matière. Position très proche de ce qui deviendra l'islam au siècle suivant. Alors, outre ces différents troubles, les relations entre le siège apostolique de Rome et la cour impériale se trouvaient complexifiées par cette situation politique en Occident également. La reconquête par l'Empire byzantin de l'Afrique du Nord contre les Vandales et d'une grande partie de l'Italie et de l'Espagne aux dépens des autres royaumes barbares, les Goths en particulier, mettait le pape dans une situation difficile, devant éviter de choisir de manière trop ouverte entre les belligérants. C'est dans ces circonstances que le pape Silvère fut accusé de trahison au profit des Goths précisément, et il fut déposé en 537 au profit du pape Vigile, peu après que les Byzantins eurent repris Rome. En Occident, ces controverses conduiront les différents papes qui se succèdent sur la totalité de la période, que ce soit Félix III, Gélas Ier, Anastase, Symmaque, Hormidas, Silvère et Vigile, à assumer une reprise sans détour des enseignements de Chalcédoine, comme point de repère, et une assistance croissante sur la valeur permanente des décisions papales. Pourtant, les évêques d'Occident n'hésitèrent pas à rejeter le document de compromis, le Judicatum, que le pape Vigile avait publié en 548, sous la pression de l'empereur. Le pape est alors replié à Constantinople à cause, encore une fois, de la menace des Goths en Italie. Le Judicatum fut unanimement rejeté en Occident. Les ennemis des trois chapitres étaient choqués d'une clause qui indiquait qu'en tout état de cause devait rester sauf l'autorité du concile de Chalcédoine. D'un autre côté, les défenseurs des trois chapitres étaient indignés de ce que le pape les avait condamnés d'une certaine manière. Ces derniers étaient en grand nombre, car c'était tous les évêques d'Afrique, d'Illyrie, de Dalmatie qui, à ce sujet, se séparèrent de la communion du pape. Il fut même abandonné par deux de ses diacres les plus fidèles, Rustique et Sébastien, qui se déclarèrent contre le Judicatum. Ils firent même passer le message aux provinces que le pape Vigile avait abandonné le concile de Chalcédoine. Ils écrivirent entre autres à Aurélien, évêque d'Arles, et celui-ci, pour s'assurer de la véracité de leurs propos, envoya à Constantinople un délégué. Vigile le reçut et lui affirma qu'il n'avait rien fait contre les décrets des papes ses prédécesseurs, ni contre les quatre conciles. Il déclara par ailleurs que toute autre position relevait de fausses informations. On dirait des fake news aujourd'hui. Mais en 550, les défenseurs des trois chapitres tinrent en Illyrie un synode régional qui condamna les ennemis de ces fameux trois chapitres. Dans le même sens, l'année suivante, les évêques d'Afrique, assemblés en synode, excommunièrent le pape Vigile à cause de son judicatum. Devant ces troubles et cette opposition, Vigile doit réviser sa ligne de conduite. Et de l'empereur, il obtient alors le pouvoir de retirer son judicatum. La tension monta encore entre Justinien et Vigile. En 552, l'empereur veut faire arrêter le pape. La description de cet événement est assez incroyable. Elle est détaillée dans une lettre du clergé milanais au clergé du royaume franc. Je cite, hein, vraiment textuellement le texte de cette lettre. La colère de l'empereur s'étant enflammée contre le très saint pape et l'évêque d'Assus, si grandes étaient les menaces qu'on leur adressait, qu'ils avaient fui à la basilique Saint-Pierre et Paul, et ils auraient été mis à mort sans cela. Mais, même dans la basilique Saint-Pierre, ce très saint pape Vigile ne trouva pas un havre sûr, car le prêteur, dont la fonction est uniquement de s'occuper des voleurs et des homicides, fut pourtant envoyé les chercher. Il entra dans l'église avec un groupe de soldats, sabres au clair et arcs bandés. Voyant leur dessein, le pape saisit les colonnes de l'autel. Mais le préfet, dont l'agitation et la férocité avaient monté, commençant par éloigner violemment de l'autel les diacres et les clercs en les empoignant par les cheveux. Puis, quelques soldats saisirent le pape par les pieds, d'autres le tirèrent par la barbe et essayèrent de lui faire lâcher prise. Comme celui-ci ne voulait pas cesser de tenir les colonnes de l'autel, celui-ci fut ébranlé. Quelques colonnes se brisèrent en morceaux et les soldats tombèrent pêle-mêle avec le pape dans la confusion. Mais Dieu, qui est présent en pareille traverse, inspira piété à la population et à quelques soldats qui commencèrent à pousser des cris contre cette abomination. Alors, le prêteur et ses soldats s'enfuirent, pris de terreur. Fin de citation. On le voit, impossibilité d'un compromis, difficulté avec Rome, il ne restait à Justinien que l'option d'un concile général dans l'espoir d'une condamnation explicite des trois chapitres. Il convoqua donc le concile pour le 5 mai 553, dans une grande salle attenante à la cathédrale Sainte-Sophie, à portée de main de l'empereur. Le lundi 5 mai 553, 168 évêques se réunirent dans la grande salle de Sainte-Sophie de Constantinople pour inaugurer le concile. Mais il y avait très peu d'évêques occidentaux, moins d'une dizaine, ce qui posait un problème car du point de vue des occidentaux, les évêques orientaux avaient une tendance très nette à valider les desiderata de l'empereur. Ainsi, on jugeait le fameux clergé milanais dans la même lettre qu'on a déjà citée, hein, je cite. C'est fréquemment que les évêques grecs avaient condamné les trois chapitres à la requête de leur prince et sans discuter, en acquiesçant à tout ce qu'on leur demandait, car les évêques grecs ont des églises riches et opulentes et supportent mal que 2 mois s'écoulent sans qu'ils puissent surveiller leurs bénéfices ecclésiastiques. Voilà pourquoi, selon les circonstances et selon la volonté de leur prince, ils acquiescent sans discuter à tout ce qu'on leur demande. Fin de citation. La première session du concile fut précisément marquée par la lecture d'une lettre de l'empereur Justinien qui récapitulait l'affaire de la condamnation des trois chapitres et les divers revirements de Rome en la matière. La deuxième session fut justement consacrée aux échanges entre le concile et le pape Vigile, qui refusait de paraître physiquement, alors qu'il était présent à Constantinople, dans l'assemblée du fait de l'absence des évêques occidentaux dont il avait expressément demandé la venue. La quatrième session, le lundi 12 mai 553, fut consacrée à l'analyse des écrits de Théodore de Mopsueste. Ces thèses furent condamnées. Les actes de la réunion rapportent les propos suivants, je cite, « Nous avons déjà condamné cette doctrine, nous l'avons anathématisée, anathème à Théodore et à ses écrits. Théodore n'est qu'un avec Judas. » Fin de citation. Mais lorsque la cinquième session, les évêques abordèrent le problème posé par l'objection sur laquelle Cyrille lui-même avait loué Théodore en l'appelant « admirable et bon ». Et l'objection fut repoussée, à raison que les compliments ont regardé spécifiquement les écrits de Théodore condamnant l'arianisme. Puis furent étudiés les écrits de Théodore et de Cyre, que les évêques jugèrent également hétérodoxes. Rassemblés de nouveau pour la sixième session, le lundi 19 mai, les prélats abordèrent tout de suite la question d'Ibas. Ses écrits furent également considérés comme hérétiques, malgré qu'Ibas avait été innocenté à Chalcédoine. Le programme de l'empereur avait donc été suivi à la lettre. Le pape, de son côté, avait demandé un délai avant de répondre aux questions posées par le concile. Au terme de ce délai, le 24 mai, Vigile avait envoyé son diacre pour faire remettre officiellement à Justinien une copie de sa décision sur les trois chapitres. Donc sur la condamnation ou pas de l'écrit de ces trois pères de l'Église. Le document du souverain pontife, appelé Constitutum, après les formules de politesse habituelles, trouve une étrange solution de compromis, en condamnant certains écrits des pères accusés, sans toutefois condamner les personnes. À propos de Théodore, il déclare, je cite, « Malgré ses recherches dans les écrits des anciens pères, il n'a pu trouver de condamnation contre la personne de ce maître. Il recommande par ailleurs d'éviter de condamner les morts, suivant un usage ancien reconnu par les pères. » Pour le cas de l'évêque Théodoré, le pape note qu'il avait été tout à fait disculpé par Calcédoine. Dès lors, il ne pouvait être question de lier son nom à la doctrine nestorienne pour le condamner. Passant ensuite aux accusations contre Ibas, le pape souligne que cette lettre a été lue et acceptée par Calcédoine. De ce fait, le Saint-Père l'innocente de tout blâme. Et il joint à cette lettre cinq anathèmes. En résumé, si quelqu'un respectant l'inconvertibilité de la nature divine, ne confesse pas que le Verbe s'est fait chair et que dès sa conception dans le sein même de la Vierge, il est uni selon l'hypostase à la nature humaine, qu'il soit anathème. Deuxième anathème, si quelqu'un nie que l'unité des natures dans le Christ s'est faite selon l'hypostase, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dans l'unique Christ divise les paroles de l'Évangile, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que l'unique Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, est aussi vrai Fils de l'homme, qu'il soit anathème. Si quelqu'un, à propos du passage de l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que le Christ a connu par expérience ce qu'était obéir, attribue ce passage au Christ comme dépouillé de sa divinité, de sorte qu'il semble introduire ainsi deux Christ ou deux Fils, qu'il soit anathème. En résumé, on peut dire que le pape renonçait clairement à condamner les trois chapitres. Et assister vraiment, remettez l'accent sur les enseignements de Calcédoine, sans séparation, mais sans confusion. Le lundi 26 mai s'ouvrit la septième session. L'empereur ayant préalablement pris connaissance du contenu de la lettre du pape, Justinien en vain a exigé du concile de rayer le nom de Vigile des diptyques, on dirait aujourd'hui le rayer des cadres, tout en déclarant ne pas vouloir rompre avec le siège apostolique, mais seulement avec celui qui était assis dessus. C'était l'introduction d'une distinction entre sedes et sedens, distinguo appelé à un grand avenir. Sur quoi les évêques s'associèrent à l'action de l'empereur, ils condamnèrent le pape jusqu'à ce qu'il se repente. La huitième et dernière session fut consacrée à la rédaction de la formule doctrinale et à 14 anathèmes. Suivant notre feuilleton, si l'on peut dire, on voit que il y aurait de quoi faire un film d'action avec ce concile, avec beaucoup de suspense et beaucoup d'aller et retour. Donc après, une fois que le concile se fut séparé, Vigile restait toujours à Constantinople. Et là, on voit que c'était un des problèmes de ce concile. Déjà à Constantinople, c'est-à-dire vraiment à portée de main de l'empereur et du prêteur, comme on l'a vu, hein, des prêteurs de la ville impériale qui pouvaient intervenir. Et puis, de manière générale, un poids extrêmement important de l'empereur dans le déroulé complet du concile, où il fait l'introduction, il intervient en cours de concile pour les décisions les plus importantes. Donc on est vraiment dans une configuration inhabituelle. Le pape étant habituellement à Rome, ce qui lui mettait une petite distance de sécurité entre lui et le pouvoir politique. Donc après le concile, le pape Vigile reste soumis à de continuelles pressions de l'empereur pendant des mois. Il est malade, il est peu entouré, il est âgé, et on lui refait remarquer sans cesse que son peuple et son clergé réclamaient son retour à Rome. Il finit par capituler. Et le 8 décembre 553, il adresse une lettre au patriarche Eutychius. Maintenant, écrivait-il, il se rendait compte de la terrible tromperie dans laquelle le démon l'avait fait tomber. Le pape anathématisait les trois chapitres avec autant de vigueur qu'il les avait défendus naguère. Si l'on analyse à fond la conduite du pape, deux choses paraissent bien établies. Ses hésitations en des matières dites dogmatiques par des théologiens d'un âge postérieur permettent difficilement de soutenir que ces décisions jouissent de la prérogative de l'infaillibilité. La faiblesse de la papauté, qui résultait des abandons de Vigile devant cette intrusion stupéfiante du pouvoir politique, dans le domaine purement théologique, devait affecter le sort de l'Église pendant quasiment trois siècles qui allaient suivre. En effet, le pape Vigile, qui décéda le 7 juin 555, fut le diacre Pélage, qui, pendant le concile, avait été un ardent défenseur des trois chapitres, mais qui, au prix d'un revirement remarquable, fut choisi par Justinien pour entériner en fait ces décisions et faire accepter ces décisions au clergé occidental. Bon, il fut mal accueilli par le clergé romain, bien évidemment, du fait de son adhésion assez tardive à la condamnation des trois chapitres. Il tenta de tenir une voie moyenne, mais l'Occident résistait toujours à la condamnation. Vital et Paul, métropolitains de Milan et d'Aquilée, se déclarèrent fidèles aux trois chapitres et refusèrent la communion avec le pape. En 558, Paul, métropolitain d'Aquilée, s'appropria le titre de patriarche. Mais ailleurs en Occident, spécialement en Afrique du Nord, il a fallu utiliser la force militaire pour que fût réduite l'opposition aux décisions du concile et qu'on en vienne à accepter cette condamnation des trois chapitres. L'empereur, de son côté, commençait à être âgé et aggravant encore la situation en publiant un nouvel édit. Dans une perspective politique, pour se concilier encore davantage les monophysites égyptiens, il y déclarait que, je cite, « le corps du Christ était par sa nature incapable de souffrir et incorruptible ». C'était tombé dans l'hérésie aftartodocet, d'origine grecque qui veut dire justement sans corruption. Mais Justinien mourut en fait le 14 novembre 565 à 82 ans, avant d'avoir pu être jugé pour cette hérésie patente. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'autorité de ce concile a été discutée. Le magistère ecclésiastique, notamment Saint Grégoire le Grand au 5e siècle, demanda l'acceptation de ce concile, mais non sans une grande prudence et même avec certaines précautions. Il reste en effet dans la liste des conciles œcuméniques dans la mesure où il est considéré comme la suite et la confirmation de Chalcédoine. De même, il n'est pas incorrect de mettre en question la valeur doctrinale des écrits de Vigile, car il est évident que le pape n'était pas libre, mais agit sous la contrainte quand il les composa. Et aussi parce que ceci annule en matière de foi des décisions jadis exprimées avec une conviction ferme. Sur le plan religieux, ce concile est qui est avant tout disciplinaire, finalement n'ajoute rien au dogme de Chalcédoine et est essentiellement témoin des désordres engendrés par l'éruption du politique dans le champ de la théologie. Cette intrusion se poursuivra dans le monde oriental jusqu'à la chute de l'Empire, et à certains égards, les églises orthodoxes sont aujourd'hui encore l'objet de telles entreprises. On a encore, de manière tout à fait récente, dans l'actualité, les cas ukrainiens et monténégrins, où des pouvoirs politiques, dans le souci d'affirmer leur légitimité, ont poussé à la création d'églises autocéphales, alors que pour les cas de l'église ukrainienne, elle relevait du patriarcat de Moscou, et pour les cas de l'église du Monténégro, elle relevait du patriarcat serbe. Malheureusement, l'Occident lui-même ne sera pas épargné par le phénomène. La résistance du Saint-Siège sera quand même beaucoup plus conséquente, et on aboutira finalement à la réforme grégorienne, qui sera un vrai retour de balancier et qui permettra au fil des siècles de mieux contrebattre le danger de cette soumission au pouvoir politique. Il faut cependant noter l'inflexion qui a été donnée à la doctrine de Saint-Cyril au cours du Concile. Les différentes manières dont cette rotation a été reçue dans les différentes régions de l'Empire demandaient évidemment des éclaircissements, et ce d'autant plus qu'une nouvelle tentative de compromis allait apparaître. C'est le monothélisme. Nouvelle hérésie, enfin du moins qui sera considérée ultérieurement comme une hérésie, qui affirme qu'il n'y a qu'une seule volonté, une seule activité dans le Christ. Ainsi, s'achemine-t-on vers de nouveaux débats et, bien sûr, un nouveau concile.
Concile également donc mouvementé.
Exactement. Peut-être pas autant que le concile lui-même que celui qui était entre Éphèse et Chalcédoine, qu'on appelait le fameux brigandage d'Éphèse, qui lui a certainement atteint des sommets en la matière. Mais quand même, on l'a vu autour, au moment de la tentative d'arrestation du pape, des pressions qui ont été mises, l'intervention de l'armée dans la basilique, etc. On a quand même des événements assez musclés, on va dire.
Et c'est tout le problème de l'irruption aussi du politique dans le domaine théologique et le domaine du concile.
Ouais, tout à fait. Et alors justement, enfin, on a le cas de Justinien qui est en fait de bonne volonté et qui en plus est un des empereurs qui avait eu des bonnes connaissances de théologie. Et finalement, ça l'a poussé à encore plus d'interventions, finalement de manière assez paradoxale, dans le champ de l'autorité religieuse, qui n'était évidemment pas sans le champ où il devait utiliser son pouvoir. Bien évidemment.
Et comme tu l'as dit, Philippe, ce sera la réforme grégorienne qui va tenter de
contrebattre tout ça.
Contrebattre tout ça, oui.
Ouais, absolument. Où on aura, bon, ce qui est connu sous le nom de querelle des investitures, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'effectivement, ce sera l'affirmation de l'autorité du pape sur l'ensemble du clergé en Occident,
Oui.
et enfin, faire d'une certaine façon une certaine séparation
Séparation avec les pouvoirs
avec le pouvoir
impériaux.
politique.
Oui.
Donc, et revenir finalement à un sujet qu'on a peut-être abordé déjà, qui est une lettre très importante du pape Gélase, hein, qui est de cette période-là, hein, du 5e siècle, où il indique clairement les deux modalités du gouvernement des peuples, qui est le pouvoir, il utilise le terme potestas en latin, le pouvoir de l'empereur, la potestas de l'empereur, et l'autorité du siège
Autoritas.
autoritas. Et donc, distinction non seulement du pouvoir politique et du religieux, du politique et du religieux, mais de la manière dont ça s'applique
Oui.
entre potestas et autoritas, qui n'ont pas les mêmes modalités d'application
D'application.
dans le champ du gouvernement. Voilà.
Et alors Philippe, la prochaine fois, autre concile?
Autre concile. Alors, j'en profite, puisqu'on a 2 petites secondes, pour transmettre aux auditeurs une petite phrase mnémotechnique pour se rappeler de la liste intégrale des conciles œcuméniques. C'est Nico égale Coco, Nico la 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 la. Alors, Nico Nicée, Constantinople, égale Éphèse, Chalcédoine.
Éphèse, Chalcédoine.
Nico, c'est Nicée 2, Coco, Constantinople 3, et Constantinople 2 et Constantinople 3. Donc, on verra Constantinople 3
À
la
pas
prochaine
la
fois.
prochaine fois. Merci beaucoup, Philippe. À
Merci à
bientôt.
vous.